de bâtons, un grand bureau ministre surchargé de paperasse, une bibliothèque et un cartonnier constituent, avec deux ou trois fauteuils de bureau, le reste de l'ameublement que complète, au point de vue décoratif, un buste de la République, modèle officiel, et un portrait du chef de l'État. Boissonnade est assis à son bureau devant un monceau de pièces qu'il signe après les avoir rapidement parcourues et range ensuite en tas dans un coin du bureau. De temps en temps, un geste d'impatience témoigne de l'intérêt qu'il prend à cette besogne. Enfin, la lecture d'un papier lui arrache une exclamation désolée.
Le gendarme est sans pitié.
Il sonne, puis à l'huissier qui entre.
Le gendarme, la Bourborax.
L'huissier remonte vers la porte, qu'il ouvre et, après avoir fait un signe vers la coulisse, s'efface et sort, tandis que le gendarme paraît sur le seuil. Après avoir salué militairement, il fait trois pas, s'arrête, ramène la main dans le rang, rectifie la position selon l'ordonnance et s'immobilise muet.
Vous êtes sans pitié, gendarme. Encore un attentat à votre caractère. Savez-vous que je vois venir l'instant où le tribunal d'écoute s'il pleut, exclusivement occupé à venger vos petits griefs, ne pourra plus suffire à tant d'obligations ? Ne dites pas non. La chambre correctionnelle n'entend parler que de vos malheurs. Hier, c'était, à votre requête, 12 condamnations pour outrage à un agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions. Avant-hier, c'en était 19. En tout, et en 48 heures, 147 jours de prison à l'actif d'une cité de 3000 habitants. C'est coquet, et ce n'est pas fini. À 7 heures, voici de vous, en date de ce jour, un procès-verbal contre l'épicier Nivoire, inculpé du double délit d'insulte à la maréchaussée et d'affichage séditieux.
Le gendarme opine du képi.
Qu'est-ce qu'il a fait, l'épicier Nivoire ?
Il a apposé à la devanture de son établissement une pancarte portant en lettres conséquentes d'une hauteur de 20 à 22 cm une inscription de nature à jeter la déconsidération sur l'arme à laquelle j'appartiens.
Quelle inscription ?
La suivante. Avis à la population. Occasion exceptionnelle. Gendarme à 2 pour 3 sous.
Des harengs sort.
Précisément.
Et voilà tout ?
J'eusse cru.
Celle-là est trop raide. Alors, c'est gravement, tout de bon, que vous vous prétendez atteint dans vos fiertés de vieux soldats. C'est de sang-froid que vous en appelez à la sévérité des juges, d'une plaisanterie inoffensive, bête comme une oie, vieille comme les rues, et dont seul s'est guéri encore, en supposant qu'il s'en égaye, les enfants et les imbéciles ?
Il est regrettable que les débordements de notre ironie nationale s'épanchent en trivialité aux dépens d'institutions consacrées de temps immémoriaux et dont l'éloge n'est plus à faire.
Que de paroles perdues, mon Dieu ! Et quel besoin d'importance ! Je vous demande un peu, gendarme, en quoi la blague de la rue peut atteindre, que dis-je, effleurer le prestige de l'arme d'élite que vous représentez si dignement ? Allons, c'est une plaisanterie ! Et vous me permettrez de vous le dire, sans vouloir ravaler en rien la gravité de votre mission, la dignité de votre rôle. Vous montrez une fâcheuse tendance à céder aux élans d'une susceptibilité qui tourne à la monomanie. Que diable ! Nous avons affaire à une population d'un excellent esprit, respectueuse des pouvoirs publics et votant bien. Ménageons donc autant que possible les bonnes dispositions de nos administrés, et fermant l'œil quand il le faut, nous bouchant les oreilles quand il est nécessaire, évitons de semer en eux, par des abus d'autorité, le germe toujours dangereux du mécontentement et de la rébellion. Vous avez compris ?
Oui, monsieur le procureur.
Bien, vous pouvez vous retirer.
Le gendarme sort. Resté seul, Boissonnade s'est remis à l'étude des dossiers accumulés sur la table. Un temps, soudain.
Encore ! Procès verbal, outrage à des représentants de la force publique dans l'exercice de leurs fonctions. Dans la nuit du 17 au 18 courant, étant de service, mon collègue Souffleur et moi, notre attention a été éveillée par le tumulte d'une dispute. Nous étant rendus sur les lieux, nous y avons trouvé le menuisier Lacossade, occupé à interpréter sa propriétaire à travers la porte cochère, sous prétexte que cette dernière refusait à la lui ouvrir. Aussitôt qu'il nous aperçut, le délinquant se porta au-devant de nous et nous harangua en ces termes. Vous pouvez constater que cette vieille charogne refuse de m'ouvrir la porte, vous pouvez le constater vous-même. Il dit, puis, d'une voix où le mépris le disputait à l'arrogance, il nous jeta ce mot « des visus ». Voulant exprimer par là non seulement que mon collègue et moi étions des visus, ce qui n'était pas vrai, mais encore que nous en étions de l'espèce la plus inférieure, reléguée au plus bas degré de l'échelle sociale et de tout point incompatible avec la magistrature dont nous sommes les assimilés. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais cet homme irréconciliable va devenir un danger public.
Il sonne. Apparition de l'huissier.
Le gendarme.
Sortie de l'huissier et entrée du gendarme.
Entrez donc, gendarme. Eh bien, gendarme, que vous disais-je? La plaisanterie continue. Il paraît que le sieur Lacossade vous a qualifié de visu, vous et votre collègue Soufflure.
Oui, monsieur le procureur.
Savez-vous bien, mon brave, que je commence à me demander si vous jouissez de vos facultés ou si vous vous bornez à vous moquer du monde?
Moi?
Des visus! Pardieu, voilà qui est comique. Et si le moniteur de la localité venait à être mis au courant de l'anecdote, vous prendriez, j'ose le prétendre, quelque chose pour votre rhume.
Mouvement du gendarme.
Je vous dis que c'est une idée fixe. Pas plus que l'épicier Nivoire, le menuisier Lacossade n'a songé à vous faire injure. Simplement, sa propriétaire lui refusant l'accès d'une demeure qui est sienne, il vous a invité, comme c'était son droit, à constater le flagrant délit, à le constater des visu, autrement dit de vos propres yeux, par vous-même. Et parce que le sens vous échappe d'un lieu commun, d'intermusuel, d'une locution tombée dans le domaine public, un pauvre diable passe la nuit sur la paille humide d'un cachot. Voilà l'action publique saisie et la justice en mouvement. En vérité, les bras m'en tombent. Et du train où vous allez, je me demande où nous allons. Et ce sont les harangues qu'on traite de gendarmes. Et ce sont les gendarmes qu'on traite de visu. Encore une fois, modérez-vous. Apportez à l'avenir moins de raideur militaire dans vos relations avec nos justiciables. Et un peu plus de circonspection dans votre empressement à sévir. Et rappelez-vous qu'un brave soldat peut, sans déchoir, être un brave homme. L'un vaut l'autre, après tout. Allez.
Il sort.
Il est tout de même dur à mon âge de m'entendre traiter de visu par un particulier qui l'est peut-être plus que moi.
Une fois encore, Boissonnade s'attelle à l'examen du courrier du jour, mais presque aussitôt.
À la fin, mon malheur passe mon espérance. Le gendarme labourbourax contre le baron Larade. Outrage à un agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions.
Rapide coup d'œil jeté sur le procès-verbal.
Le pire est que cela a l'air sérieux.
Il sonne. L'huissier apparaît.
Courez de suite au cercle, huissier. Place d'armes, à deux pas d'ici. Vous demanderez le baron Larade et vous l'inviterez de ma part à passer à mon cabinet toutes affaires cessantes. Faites vite.
Fausse sortie de l'huissier.
Ah, et envoyez-moi le gendarme.
L'huissier sort, entre le gendarme.
Je vois, gendarme, par ce procès verbal, que vous auriez eu à vous plaindre de monsieur le baron Larade.
Oui, monsieur le procureur.
Qu'est-ce qu'il vous a fait?
Il a usé vis-à-vis de moi d'un terme non adéquat à l'uniforme dont je suis revêtu.
Boissonnade consulte le procès-verbal.
Oui, enfin, tranchons le mot. Il vous a appelé moule.
Le gendarme salue.
Sauf votre respect.
Vous êtes bien sûr?
C'est consigné à mon rapport.
Boissonnade feuillette le dossier.
Je vois, je vois. Seulement, de l'humeur dont je vous sais, pouvant d'une part suspecter à bon droit une susceptibilité et toujours prête à prendre la mouche, d'autre part, connaissant le baron comme je le connais, j'en arrive à me demander quel concours de circonstances a pu pousser à un tort aussi grave un homme si paisible et si doux, l'expression même du savoir-vivre, de la courtoisie et de l'aménité. Moule?
Moule!
Le diable m'emporte si j'y comprends un mot.
L'huissier entr'ouvre la porte.
Monsieur le baron Larade est là.
Ah, qu'il entre. C'est bien, gendarme, je vous rappellerai tout à l'heure.
Boissonnade va au baron, la main tendue.
Bonjour, baron. Entrez donc, je vous prie.
Le baron entre. La porte se referme derrière le dos du gendarme qui sort.
Vous allez bien?
Moins bien que vous. En voilà une aventure. Vous insultez la gendarmerie à présent.
Oh, ne m'en parlez pas.
C'est vrai, alors?
Ce n'est que trop.
Vous avez qualifié de moule le gendarme Labourbourax?
Oui, monsieur le procureur.
Le bon Dieu vous bénisse. Une jolie affaire, baron, que vous vous êtes mis sur les bras.
C'est grave, hein?
Comment, si c'est grave? 6 jours à 3 mois, tout bonnement.
3 mois de prison?
Mesdames.
Je suis déshonoré.
Pas encore. Attendez un peu. Vous aurez toujours le temps de vous faire sauter la cervelle. Nous allons procéder par ordre.
Il lui avance une chaise.
Et tout d'abord, assis sur ce siège d'infamie.
Le baron soupire longuement.
La vérité qui rit.
Boissonnade le fait asseoir.
Vous allez, mon cher baron, me faire le récit détaillé de votre exécrable forfait. Il convient que je sache si le monstre a la vie dure, pour le cas où, on ne sait jamais, je concevrai le lâche dessein de l'étouffer dans ses langes.
Le baron lui prend les mains.
Cher et excellent ami.
Boissonnade s'est assis à sa table.
Je vous écoute.
Mon Dieu, c'est simple comme bonjour. J'habite, comme vous le savez, le château de Beauchesne, près cette charmante ville d'Écoute-s'il-pleut, où j'ai la prétention d'être connu assez avantageusement.
Pour cette excellente raison que vous en êtes le bienfaiteur, ainsi que personne n'en ignore.
Oh, bienfaiteur, c'est beaucoup dire. Je dote une rosière chaque année, je fais remettre à neuf le clocher de l'église, donner des pots aux pompiers.
Pourvu d'une magnifique grosse caisse, la fanfare municipale, etc., etc.
Tout cela est de peu d'importance. Et si j'invoque le souvenir de ces petites libéralités, c'est à titre de simples circonstances atténuantes. Dans le même ordre d'idées, et avant d'aborder la narration de mes malheurs, il me soit permis de rappeler mon inébranlable attachement aux principes qui nous régissent.
Au fait, baron, au fait.
J'y arrive. Il y a une huitaine de jours, j'étais allé, comme à mon habitude, demander un peu d'appétit à la promenade et au grand air. Toujours comme à mon habitude, j'avais emmené Anatole.
Qui ? Anatole ?
Mon chien.
Le petit ratier anglais qui ressemble à un radis noir.
C'est cela même.
Charmant animal. J'ai l'avantage de le voir quelquefois avec vous, à la musique, le dimanche.
Trop aimable. Il n'a rien que de très ordinaire. J'y suis toutefois fort attaché, et cela pour plusieurs raisons. D'abord, nous ne sommes plus jeunes, lui ni moi. Puis nous sommes veufs tous les deux. Également intelligents, je le dis sans fausse modestie. Et de commerce plutôt agréable. En outre, comme tous ces pareils, cette petite bête, mon Dieu, comment dirais-je, stationne volontiers le long des murs, et moi-même, ayant une cystite, nous pouvons, au cours de nos promenades, stationner aussi fréquemment que le besoin s'en fait sentir, sans crainte de paraître ridicule l'un à l'autre. Ça n'a l'air de rien, c'est énorme. C'est sur ces petites simplifications de la vie que reposent les vraies et solides affections. Ne le pensez-vous pas ?
Pardon, je le pense tout à fait, au contraire.
Il était 8 heures environ, il faisait un temps magnifique. J'allais au hasard de la marche, buvant à plein poumon l'air pur de la campagne, bénissant le Seigneur, notre Dieu, d'avoir fait la nature si belle, et moi si digne de la comprendre. Dans mon dos, Anatole trottait, goûtant, lui aussi, la douceur de cette ineffable matinée. J'entendais derrière moi le tin-tin du grelot pendu à son collier, un tin-tin qui s'accélérait, se ralentissait alternativement, selon que moi-même, plus ou moins, je hâtais le pas ou le modérais. De temps en temps, pour souffler, je prenais une seconde de repos. Alors je n'entendais plus rien que le chant des alouettes invisibles, car Anatole, dans le même instant, avait fait halte sur mes pas.
Une églogue, quoi.
Soudain, au loin, par-dessus l'océan de blé mûr qui moutonnait à l'infini, je distinguais le tricorne en bataille du gendarme, la Bourbourax. Je devinais que le hasard allait nous mettre face à face, et je me félicitais de cette bonne fortune. Je suis un homme simple, monsieur le procureur. Je suis un homme sans méchanceté. L'uniforme n'a rien qui m'effraie, et la vue des gens de bien me fait toujours plaisir. Je me préparais donc à jeter au gendarme un souhait affectueux de bonne santé, quand, jugé de mon étonnement, ce militaire qui m'avait joint rectifia la position et, tirant un calepin de sa poche, « Ordonnance de police, dit-il. » Les chiens doivent être tenus en laisse. Le vôtre étant en liberté, je vous dresse un procès-verbal.
Procès-verbal ?
Je vous demande un peu. Un petit chien gros comme le poing, et gentil, et doux, et sociable, victime d'une mesure.
Une mesure de sécurité générale, sans doute, mais qui demandait à être appliquée avec quelque discernement. Il est clair qu'un chien comme le vôtre, bien tenu, bien portant, gras à souhait, ne saurait être assimilé aux chiens malheureux et errants que vise l'ordonnance de police.
C'est mot pour mot le discours que me tint le maire, homme charmant, à qui je m'empressais d'aller conter ma mésaventure, et qui s'en montra fort mari. Il reconnut que le gendarme avait, dans la circonstance, manqué du tact le plus élémentaire, et me renvoya rassuré, m'engageant cependant, pour éviter de nouveaux ennuis, à tenir Anatole en laisse jusqu'à plus ample informé. L'affaire de 2 jours tout au plus, le temps pour lui, demandait le gendarme et de lui glisser à l'oreille quelques mots touchant mon affaire.
Et vous vous conformâtes, je pense, à cet avis plein de sagesse.
N'en doutez pas.
À la bonne heure.
J'achetai donc une laisse de 20 sous et j'y attachai Anatole. Il en parut surpris, disons plus...
Mortifié ?
Ah, je cherchais le mot. Mortifié. Comme j'ai eu l'honneur de vous l'exposer, il n'est plus jeune, à beaucoup près. Il jouit... Le ciel en soit loué, d'une santé en tout point florissante, mais enfin, il a un tel âge où l'on supporte malaisément un changement dans les habitudes. Et c'était, cette laisse, tout un bouleversement dans sa petite existence de chien. De l'instant, oui, de l'instant même où il cessa de se sentir libre, il se refusa systématiquement à me suivre, rivé des quatre pattes au sol. En vain, je tâchais de le raisonner, m'excusant, avant quand le cas de force majeure, en appelant à son bon cœur et faisant surgir à ses yeux l'inquiétante silhouette du gendarme. Peine perdue, il demeurait sourd, il secouait furieusement la tête, voulant dire par là, sans doute, qu'il était de mœur insoupçonnable et n'avait rien à démêler avec la gendarmerie.
Ô candeur ineffable des consciences tranquilles.
Ainsi, deux jours, nous nous promenâmes par les champs et par les bois, moi à l'avant, lui à l'arrière, tirant chacun sur une extrémité de la laisse, à ce point qu'on eût pu savoir lequel de nous deux tenait l'autre. Et cette vie, en vérité, devenait insoutenable et odieuse quand, brusquement, à un détour de sentier, je me retrouvais en présence du gendarme, la Bourbourax. « Le maire m'a parlé, me dit cet homme. Votre chien a le droit d'être libre. »« Bon, m'écriai-je. » Et je m'abaissai pour détacher le mousqueton fixé au collier d'Anatole. Lorsque le gendarme reprit, « Vous le tenez en laisse, cependant. Pourquoi le tenez-vous en laisse? Je vous dresse procès-verbal. »«
Non. »
Le baron, après avoir d'un mouvement de tête confirmé l'authenticité de son récit,
à cette déclaration inattendue, une douce gaieté s'empara de moi. Le gendarme, fronçant le sourcil, dit que je raillais l'autorité. Je haussai les épaules.
Oh oh.
Le gendarme s'emporta.
Ah ah.
Je répliquai. Il m'imposa silence d'un ton que je jugeais inconvenant. C'est alors que, perdant la mesure, je tournai le dos à ce militaire en lui jetant de biais cette parole qui m'amène aujourd'hui devant vous. Et qui demeurera à tout jamais le remords de mon existence. Gendarme, vous êtes une moule.
Boissonnade après un silence.
À vrai dire, si grand soit-il, votre crime perd tout intérêt comparé à l'affaire Fualdès.
Je m'en doutais un peu. Alors ?
Alors, le diable soit de vous, cher ami. Pour une fois que vous manquez de respect à un gendarme, vous n'avez pas la main heureuse. Je donnerais de bon cœur 500 francs de ma poche pour que vous ayez injurié le gendarme Petit Grignol ou le brigadier Montpétaz. Avec ces gens de sens racine, on pourrait discuter, s'entendre. Mais le gendarme la Bourbourax, dont le nom seul évoque une idée de catastrophe...
Il ne peut rien sans vous.
Mais je ne peux rien sans lui. Nous sommes, vous et moi, dans ses mains. Qu'il n'y mette pas de complaisance, comme le gendarme de la chanson, et c'est...
C'est la correctionnelle.
Hélas.
La flétrissure d'une condamnation.
J'en ai plus peur qu'envie. Enfin, prenons toujours le vent. Le diable s'en mêlera ou je trouverai bien le moyen de vous enlever aux griffes de cette brute entêtée.
Il va à la porte du fond et l'ouvre.
Gendarme !
Je mets mon sort entre vos mains.
Entre le gendarme, la Bourbourax.
Approchez-vous, gendarme, et causons en amis. Il est malheureusement établi que vos griefs sont fondés et que monsieur le baron Larade s'est rendu coupable envers vous d'une incontinence de langage.
Il m'a appelé boule.
Il l'avoue. Et il en est au désespoir.
Le baron, d'un geste éloquent, prend le ciel à témoin de ses remords.
Il me charge donc de vous transmettre l'expression d'un repentir qui n'est pas équivoque, et c'est de grand cœur, n'en doutez pas, que je me fais auprès de vous l'avocat de sa cause. Laissez-moi croire qu'elle est à demi gagnée déjà.
Un temps. Le gendarme demeure muet.
Raisonnons. Vous n'ignorez pas que monsieur le baron Larade est une des notabilités les plus justement appréciées de notre petit coin provincial. Homme de tenue et respectueux de nos institutions, ami de l'ordre et de ses gardiens, il honore votre caractère à l'égal de votre personne.
Dieu !
Et il vous serait reconnaissant...
Jusque dans la nuit du tombeau !
Si, usant de la miséricorde et du droit d'indulgence acquis à tout passé irréprochable, vous consentiez à oublier la faute en faveur du remords qui l'expie.
Nouveau temps, le gendarme se tait.
Je m'associe pleinement, pour mon compte, au vœu de ce parfait galant homme.
Même jus.
Un peu de charité, sacrebleu. Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Vous-même, d'ailleurs, il faut bien le dire, avez rendu compréhensible l'écart de langage en question par votre double interprétation, d'abord excessive, puis absurde, d'une réglementation, tranchons le mot, élastique. Je vous supplie d'y réfléchir. Retirez votre plainte, croyez-moi. Vous ferez ainsi œuvre de bonne grâce, et vous épargnerez du même coup à notre humble et chère petite ville l'affront d'un scandale public, le deuil d'une inimitié entre deux personnalités également considérées, la vôtre, gendarme.
Il désigne le baron.
Et la sienne.
Nouveau temps.
Mais répondez donc quelque chose, c'est exaspérant à la fin.
Soit, je répondrai en ces termes.
Au baron.
Avez-vous dit que j'étais une moule, oui ou non?
Je l'ai dit.
Bien. Le pensez-vous?
Moi? Pas un instant, gendarme. Pas une minute, pas une seconde.
Vous le jurez?
Sur mon honneur.
Vous n'en êtes donc que plus coupable.
Homme sans pitié.
Voyons, gendarme, ce n'est pas là votre dernier mot. Vous ne voudrez pas, pour une sottise qui est le premier à déplorer, infliger à un homme de 65 ans, justement orgueilleux d'une vie qu'il ose proclamer sans tâche, une fin qui serait un écroulement et qu'empoisonnerait à jamais la honte d'un casier judiciaire.
Et vous demeurerez indifférent à une douleur si ingénue. Et l'acte de contrition où s'humilie ce pauvre homme ne vous apparaît pas comme la plus éclatante de toutes les réparations? Quel appétit de vengeance!
Pardon! Une supposition que moi, je l'aurais appelé visu.
Appelez-moi comme vous voudrez, pourvu que vous ne m'appeliez pas en police correctionnelle. 3 mois de prison, mon Dieu! Voyons, vous êtes père de famille, de lourdes charges vous incombent, et sans vouloir me faire l'apôtre de certaines revendications sociales, j'oserais dire que l'État ne reconnaît pas toujours avec la générosité souhaitable le mérite de ses serviteurs. Le militaire n'est pas riche, comme le dit une chanson célèbre. Si je pensais qu'une indemnité raisonnable de 150 à 200 francs...
Êtes-vous fou, baron?
Le gendarme fronce le sourcil.
Vous dites?
Je dis que si une petite somme de 25 louis, par exemple...
Le gendarme, sévère mais juste.
Tentative de corruption envers un fonctionnaire public. Je porte plainte entre les mains du dépositaire des lois.
Ça y est.
Le baron, qui ne comprend pas.
Quoi?
Le délit est flagrant. Article 179. 3 mois à 6 mois de prison. C'est bien simple.
6 mois de prison. 6 mois de prison. Gendarme, à la fin, prenez garde.
Plaît-il?
Baron.
La moutarde me monte, gendarme. Et je commence à me demander de quoi je ne serais pas capable. À quelle extrémité fâcheuse.
Menace à un agent de la force publique dans l'exercice et à l'occasion de ses fonctions. Je requiert contre le délinquant l'application de l'article 224.
Sans lettre!
Il va pour s'élancer. Boissonnade qui, depuis un instant, s'absorbait dans une rêverie.
Halte là! Du calme, je vous prie! Gendarme, vous avez raison et votre plainte est légitime. Je la reçois donc en ses conséquences.
Le gendarme salue et se dispose à sortir.
Un mot pourtant.
Le gendarme fait halte.
Vous avez l'heure?
Le gendarme tire sa montre.
Midi, 16 minutes.
Vous avancez?
Non.
Si.
Faites excuse, j'ai réglé ma montre ce matin sur l'horloge de la caserne.
De la caserne?
De la caserne.
En ce cas, vous êtes impardonnable, car depuis 16 minutes déjà, au terme du manuel sur le service intérieur, vous devriez être en chapeau, en tunique et en baudrier. Le fait de vous afficher à une heure aussi tardive dans le débraillé où je vous vois constitue donc de votre part une violation systématique des règlements en usage, un manque d'égard volontaire à la majesté d'un lieu que j'ai charge de faire respecter.
Le gendarme essaye de placer un mot.
Taisez-vous!
Il prend une plume et écrit.
Je crois devoir signaler à l'appréciation de monsieur le commandant de place l'attitude du gendarme Labourbeaurax qui, dans un but évident de provocation, affecte d'étonner le palais de justice par l'inconvenance de sa tenue.
Il glisse le pli sous une enveloppe.
Portez ce mot à son adresse.
Un temps.
Je suis ici pour recevoir des ordres et pour les exécuter. La lettre sera remise à son destinataire.
Je l'espère bien.
Je me permettrai pourtant de faire remarquer au juge qui m'interlocute qu'avec un motif pareil, je n'y couperai pas de mes 30 jours.
Tant pis.
Je lui ferai également observer avec tout le respect voulu que, depuis bientôt 25 ans, je sers fidèlement mon pays, que je m'honore d'avoir un livret militaire vierge de toute punition, et que celle qui m'atteint au déclin de ma carrière m'est plus cruelle qu'un soufflet, étant un démenti donné devant tout le monde à mon passé immaculé.
Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ?
Je serais porté à penser qu'un acte de clémence, de générosité...
Où diable voulez-vous en venir ? Vous ne plaidez pas pour vous, je pense.
Mes torts ne sont pas tellement graves que je ne puisse les présenter sous de favorables auspices.
Je ne vous dis pas le contraire, mais qui donne la leçon doit l'exemple. Sévérité bien ordonnée commence par soi-même, et à gendarme sans pitié, magistrat sans mansuétude.
J'ajouterai encore...
Rien du tout. Voici complété par l'adjonction des deux flagrants délits nouveaux, le dossier de l'affaire Larade. Veuillez y jeter un coup d'œil et signer vos déclarations.
Trémontant, Boissonnade, debout, présente au gendarme une plume. Le gendarme, lui, demeure muet, mais d'un mutisme tourmenté et nerveux qui n'est plus celui de tout à l'heure. Il mâche furieusement sa moustache, tourne les papiers entre ses doigts, en proie à un violent combat intérieur. Soudain, enfin, il se décide, et d'une voix pleine de noblesse.
Le gendarme est sans pitié, mais il n'est pas sans grandeur d'âme.
C'est à son éloge.
Puis, voyant le gendarme déchiré, le procès-verbal.
Que faites-vous ?
J'abdique mes revendications par égard pour une tête chenue.
Comme vous voudrez. La farce est jouée, baron. Vous pouvez retourner au cercle.
Vous retirez votre plainte ? Vous retirez votre plainte ! Gendarme, vous êtes une moule.
Hein ?
Quoi ?
Une mère ! La langue m'a fourché. Gendarme, vous êtes une mère.